VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Les élections prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo risquent d'aggraver les crises et les conflits qui secouent le géant de l'Afrique centrale, selon un rapport d'université américain publié ce mardi. Le groupe des experts du Congo, GEC, de l'Université de New York, estime que si les scrutins se tiennent dans ces conditions, ils risquent de faire tomber le pays dans des années de contestation, de saper davantage la légitimité des élections et d'aggraver les conflits dans l'Est et au Kasaï. Le 23 décembre, il pourrait y avoir plus de 7 millions de voix potentiellement frauduleuses, s'inquiètent les experts du GEC, qui recommandent au gouvernement congolais d'autoriser toutes les missions d'observation électorale. Et toujours en RDC, le candidat du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, a tenu lundi sa première réunion publique à Lubumbashi, capitale du Katanga, minier que se disputent le pouvoir et l'opposition à l'approche de l'élection présidentielle du 23 décembre. Martin Fayulu, côté opposition, a présenté hier soir à Kinshasa son équipe de campagne où les proches de Moïse Katumbi et l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba se taillent la part du lion. Il a de nouveau tendu la main à l'autre candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, qui doit rentrer ce mardi à Kinshasa avec son allié Vital Kamerhe. 6 civils et un rebelle ont été tués lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources civiles et militaires, l'attaque a visé Ouacha, à 30 km au nord de Beni, cible régulière de raids attribuée aux forces démocratiques alliées ADF, historiquement des rebelles musulmans ougandais. D'après l'AFP, plusieurs milliers de personnes ont marché ce matin à Beni pour exprimer leur colère contre l'insécurité. Au Congo-Brazzaville, les populations se posent des questions sur la suite des missions du Fonds monétaire international, car jusque-là, le pays n'arrive pas à conclure un accord avec le FMI. Elle reste cependant partagée entre la déception et l'espoir, car le Congo renoue avec la croissance économique. À Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Le FMI est à sa 4e visite à Brazzaville depuis septembre 2017. À chaque mission, les populations se font elles-mêmes l'écho de ces rencontres.
On se demande pourquoi on ne se confie pas réellement au FMI. Est-ce qu'on protège ces gestionnaires qui ont fait preuve d'une gestion scabreuse? On ne comprend pas. Mais dans les rues, quand on cause, en tout cas, il n'y a pas trop de lueur d'espoir.
Dans les régies financières, les missions du FMI perturbent le fonctionnement normal de l'administration, comme le témoigne ici un directeur des affaires administratives et financières.
Fort malheureusement, sa présence à Brazzaville permet plutôt de constater que tout se bloque. Plus de paiement de trésor, plus de virement de salaire. Et là, à ce moment, on se dit, est-ce qu'ils viennent pour nous aider ou ils viennent réellement pour bloquer le pays? Les administrations publiques ont du mal à se faire payer. Mais l'argent ne circule pas. Même qui a émis un engagement au niveau du budget arrive à se faire payer le plus tôt que possible au niveau du trésor.
Au niveau des fins limiers de la finance congolaise, les analyses sur ces missions du FMI divergent. Clément Miarassa, ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donne son point de vue.
Est-ce que ceux qui ont plongé le pays dans cette situation sont capables d'apporter les solutions de sortie à cette crise? Et puis cette incapacité à sortir du pétrole et qu'on s'y accroché, si les effets sont comme le chef de la délégation du Fonds monétaire l'a dit, que c'est lié à la remontée des cours du prix du baril du pétrole, ça veut dire que notre situation, elle est très très fragile.
L'avis de l'analyste économique Alphonse Ndongo montre que malgré l'absence d'un accord d'aide avec le FMI, le Congo a fait plusieurs efforts.
Je crois qu'il est tout à fait normal que les autorités congolaises ne sont plus dans la même situation qu'il y a 2 ans pour essayer donc maintenant d'actualiser la position, les indicateurs économiques du Congo. Et quand vous regardez l'actuel budget, vous avez espoir parce qu'on renoue avec la croissance. En 2019, on nous annonce quand même un taux de croissance qui est au-delà de 3%. C'est déjà important. Je vous apprends qu'en 2016, le taux de croissance du Congo était négatif. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, le FMI qui vient traiter avec nous tienne compte maintenant de cette nouvelle donnée. On ne sera plus quand même dans une position où on doit ingurgiter la potion amère que le FMI aurait dû nous faire ingurgiter il y a 2 ans.
Le Congo court toujours après un accord avec le FMI et son dossier n'est pas dans l'agenda du conseil d'administration de ce mois de décembre. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat aux élections législatives du 20 décembre. Elle appelle à de nouvelles manifestations pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Morgan Guiriek.
Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition. Raison de la colère, la Cour constitutionnelle n'a validé aucun des 14 partis membres de la coalition qui est à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an. Nous avons déjà saisi la commission de la CDAO, a ajouté la coordinatrice de la coalition de l'opposition. Cette coalition appelle donc à de nouvelles journées de manifestation, les 29 et 1er décembre. L'opposition exige la recomposition du bureau de la commission électorale ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À ce micro, Jean-Roger Billon, la suite de ce journal. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et le ministre de la Défense Jim Mattis doivent s'adresser demain mercredi au Sénat des États-Unis à propos de l'Arabie Saoudite, source d'inquiétude au sein de la classe politique américaine. L'intervention de messieurs Pompeo et Mattis est prévue alors que le sénateur et ancien candidat à l'investiture démocrate en 2016, Bernie Sanders, s'apprête à présenter à nouveau une résolution visant à arrêter l'assistance militaire américaine à la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles houthis au Yémen. La première ministre britannique Theresa May a appelé hier des députés très sceptiques de son pays à soutenir l'accord de divorce obtenu la veille avec l'Union européenne. Raissa Girondin.
Theresa May a réaffirmé son absolue certitude qu'il n'y a pas de meilleur accord possible. Elle a appelé les parlementaires à le soutenir au nom de l'intérêt national. Un rejet serait un retour à la case départ qui ouvrirait la porte à plus de divisions et d'incertitudes, a-t-elle ajouté. Dimanche, un sommet européen a scellé l'accord de divorce entre Londres et Bruxelles, après 17 mois de négociations difficiles. Les députés britanniques doivent le ratifier avant leur pause qui commence le 21 décembre. Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, principal parti d'opposition, a rétorqué que l'accord était un acte d'automutilation nationale et que, selon lui, cette assemblée n'a d'autre choix que de le rejeter. La tâche de Theresa May sera encore plus compliquée. Elle dispose au Parlement d'une courte majorité. Son petit allié nord-irlandais a prévenu qu'il voterait contre à cause du statut spécial accordé à l'Irlande du Nord. Du côté des partisans du Brexit, l'ex-chef de la diplomatie Boris Johnson estime que l'accord est un désastre et une humiliation pour le Royaume-Uni, qui selon lui demeure un État satellite de l'Union européenne. Mais Jeremy Hunt, son successeur aux affaires étrangères, estime que beaucoup de choses peuvent changer dans les deux semaines à venir.
Vladimir Poutine a mis en garde aujourd'hui l'Ukraine contre tout acte irréfléchi après la décision de Kiev d'instaurer la loi martiale en réponse à l'arraisonnement de trois navires ukrainiens par les gardes-côtes russes et demandé à Angela Merkel, la chancelière allemande, de faire pression sur l'allié des Occidentaux. Il s'agit de la première confrontation ouverte entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014 et l'éclatement d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes qui a fait depuis plus de 10 000 morts. Le Parlement ukrainien a voté lundi soir l'introduction de la loi martiale dans les régions frontalières de l'Ukraine après que la Russie a capturé dimanche trois navires ukrainiens au large de la Crimée et fait prisonnier la vingtaine de marins à leur bord. Le président syrien Bachar al-Assad a mené lundi un remaniement ministériel portant sur 9 portefeuilles, dont ceux de l'intérieur et de l'industrie. Dans un autre décret publié le même jour, Bachar al-Assad a annoncé la création d'une commission national de réconciliation. Le président syrien a par ailleurs nommé Adel Anwar al-Olabi comme gouverneur de Damas à la place de Bouchar al-Saban qui occupait ce poste depuis 2006. Jean-Roger Billon à ce micro, vous écoutez VOA Afrique. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez alors notre ami Henri Francisque pour un nouveau journal tout à l'heure. Allez, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. Restez à l'écoute et à tout à l'heure sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.